Bonsoir. L'MLC dénonce les tracasseries dont sont victimes ses dirigeants et militants et accuse le pouvoir à chercher à anéantir l'opposition politique. C'est le thème autour duquel nous débattons ce soir dans Dialogue entre Congolais. Sur quels faits concrets se base l'MLC pour lancer cette accusation? Que faire pour instaurer un climat de confiance entre la majorité au pouvoir et l'opposition? Ce sont les deux questions qui vont permettre à nos invités de débattre. Ces sujets intéressent au plus haut point nos auditeurs, alors qu'il est notre compteur indique les chiffres et les 75 réactions déjà enregistrées avant même que l'émission ne commence. En voici quelques-unes. La liste de Boutembo de Nord qui vous dit l'MLC crie pour les persécutions et ne dit rien des victimes dont il a été à la base. Ruvuna, Agano, Diane, Eve de Bukavu au Sud-Kivu pose cette question. Pourquoi les troupes du gouvernement occupent jusqu'à aujourd'hui les sièges du MLC? Prosper de Boutembo, Nord Kivu veut savoir comment le chef de l'État va unifier les pays dans un climat de vengeance contre l'opposition. Didier Boutembo, Nord Kivu croit que l'opposition a les droits d'exister pourvu qu'elle soit républicaine, mais quand elle frise l'insurrection, on la combat, dit-il. Elvis Alubumbashi dans les Katanga pense que les membres du gouvernement doivent comprendre que le pouvoir n'a que 5 ans pour gouverner alors que l'MLC va toujours exister. Enfin, Moustavouli à Béni, alors qui vous pose la question suivante. Peut-on continuer à parler de la RDC pendant que l'opposition institutionnelle est muselée? Que le Congolais en tire une leçon. Quand le verre est tiré, il faut le boire, dit-il. 3 invités ont accepté de débattre de ces problèmes sur le plateau des dialogues entre Congolais ce soir. Monsieur Lambert Mende Omalanga, ministre des Hydrocarbures et porte-parole adjoint de l'Alliance pour la majorité présidentielle au pouvoir AMP, il est au micro. Monsieur Thomas Luaka Losenjola, secrétaire exécutif du MLC et député de l'Union pour la Nation, il est au téléphone également. Enfin, monsieur François Elika, analyste politique, assistant à l'IFASIC, il est au studio. Bonsoir à nos invités.
Bonsoir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Voilà, une petite rectification. Mehdi, voilà, je vois l'honorable Thomas Luaka qui n'est pas au studio, qui n'est pas au téléphone, mais qui est au studio, qui fait déjà son entrée dans le studio, qu'on va voir tout de suite là. D'ailleurs, je lui dis bonsoir, honorable Thomas Luaka. Merci d'être venu. Entamons la première partie de cette émission par la question sur quels faits concrets et bases l'MLC pour lancer cette accusation. Dans son communiqué publié ce lundi dans certains journaux de la place, comme Le Potentiel, on retient donc le fait suivant. L'occupation et les pillages de son siège, donc du siège du MLC par la garde républicaine, les pillages des résidences et son secrétaire général, les députés François Mwamba et son inspecteur général, le gouverneur José Makila, les arrestations arbitraires et les actes d'intimidation à l'égard de ses cadres et militants, ainsi que ceux d'autres partis politiques de l'opposition, et enfin les visites et les perquisitions domiciliaires par les hommes en armes sans aucun mandat des autorités judiciaires. S'agissant de ces derniers points, je vous invite à suivre les témoignages d'un proche du gouverneur José Makila, dont la maison a été perquisitionnée vendredi dernier.
Ce n'était pas d'abord des militaires, mais plutôt des agents en civil qui sont arrivés. Ils nous ont dit qu'ils sont venus récupérer les véhicules. Comme nous, on ne voulait pas leur donner les véhicules sans l'accord du propriétaire de la maison, ils ont insisté et voulaient à tout prix récupérer ces véhicules-là aujourd'hui. Face à notre résistance, ils ont alors utilisé la force en appelant du renfort. Quelques minutes après, 6 types des officiers de la police sont arrivés avec à peu près 20 à 30 policiers. Ils sont entrés des forces dans la maison, ont pris de l'argent, des téléphones, des objets de valeur et ont même tiré dans la maison. Dieu merci, personne n'a été touché. Après leur besoin, ils sont partis avec nos 2 policiers qui font la garde et nos 2 chauffeurs. Nous attendons la suite, nous ne savons pas ce qui va arriver après.
Cette opération menée par les policiers est partie d'une plainte de son successeur au ministère des Travaux publics, poste que José Makila occupait avant de devenir gouverneur. On écoute le ministre d'État chargé des travaux publics, Pierre Noumbi, qui donne les raisons de sa plainte.
Ce n'est pas la résidence de Makila, mais c'est la résidence de fonction du ministre. Et lui n'est plus ministre. Et nos gens ont pris contact avec José Makila, puisque en plus de ça, il a gardé un certain nombre de véhicules de l'État avec lui.
Combien ?
Au moins 4 ou 5. On lui a demandé de remettre, comme on demande à tout le monde. Les services spéciaux ont été obligés d'intervenir et de prendre les véhicules qui étaient chez lui et sont des véhicules de l'État. Il ne peut pas se mettre au-dessus de la loi.
Et est-ce que la procédure avait été réellement
aussi ? Mais écoutez, la procédure, moi, je vois qu'il y a des agents qui sont accompagnés par des officiers reconnus en tant que tels. Eh bien, ils peuvent entrer et prendre les véhicules. On l'a fait un peu partout. Il n'y a pas de raison parce que c'est Makila ou quoi, ou qu'il dit soi-disant qu'il est élu, qu'il peut prendre les véhicules de l'État et se réfugier derrière les procédures. Nous prendrons tous les véhicules de l'État où qu'ils se trouvent.
On parle aussi des pillages qui s'en sont suivis.
Ça, c'est autre chose. Si lui prouve qu'on a pillé, on est prêt à répondre, mais il n'y a eu aucun pillage, c'est tout.
Monsieur Lambert Mende, comment justifiez-vous le fait que des maisons appartenant à des membres de l'opposition soient perquisitionnées par des hommes en uniforme sans mandat?
Tout d'abord, c'est une contre-vérité que d'affirmer qu'il n'y a pas eu de mandat. Ça, c'est un mensonge, parce que je viens d'avoir le fin mot de l'histoire auprès des autorités judiciaires habilitées. Les officiels qui se sont présentés à la résidence de M. Makila, qui n'est pas sa maison, qui est une maison de l'État, mais qui était occupée par lui, et qui ne pouvait être visitée que sous mandat, ça il a raison, et il y avait eu mandat. Donc, disent qu'il n'y a pas eu mandat, c'est complètement faux. Et je crois que la dame qui a donné le récit, quelque part, dit vrai, dans la mesure où il y a eu des agents civils qui se sont présentés avec un mandat pour récupérer des véhicules et qui se sont heurtés au refus des occupants de la maison. Vous comprenez, il y a résistance à l'autorité judiciaire. Et je pense que tous les Congolais savent que partout au monde, lorsque vous résistez, l'autorité judiciaire peut passer par une exécution forcée. C'est ainsi que le procureur a requis la police pour aller récupérer de force ce qu'on ne voulait pas donner de plein gré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de citoyens contre lesquels on ne peut pas recourir aux procédures judiciaires normales lorsqu'ils détiennent des biens qui ne sont pas à eux et qui plus est, sont des biens de l'État. C'est ce qui s'est passé. Nous avons appris qu'il y a eu plainte pour des bavures. Attention, parler de pillage est un peu excessif. S'il y a eu des bavures, l'autorité militaire doit prendre des mesures et de fait, nous avons appris ce soir que le colonel commandant des troupes est arrivé sur place pour rendre à la famille de M. Makila $300 qu'un militaire avait pris et ce militaire est détenu. Il sera jugé. Donc il ne sert à rien de monter en épingle une bavure que nous déplorons, que nous condamnons et que nous devons réprimer et oublier celui qui a voulu détourner et une maison de l'État parce que les procédures étaient en cours de manière irrégulière pour faire attribuer à M. Makila cette maison et 5 véhicules de l'État, passer ça par ses profits et voir simplement le comportement d'un petit sergent de la police, je dis que là, il y a à boire et à manger.
Merci, monsieur le ministre. Réaction de l'honorable Thomas Louaka avec ce dernier développement de l'affaire.
Ok, merci beaucoup. Mais tout de suite, je voudrais attirer l'attention de nos orateurs et nos auditeurs sur une petite contradiction. Vous avez bien suivi le ministre Lumbi. Il a dit on ne peut pas se cacher derrière les procédures pour confisquer les biens de l'État. Donc on lui a posé la question clairement, y a-t-il mandat? Il a dit, ça ce n'est pas le plus important, procédure, ça c'est autre chose. Monsieur Mende, qui est un monsieur qui prône un état des droits, a reconnu la nécessité des mandats. C'est maintenant qu'il vient de parler des mandats. Mais monsieur Pierre Lumbi a parlé qu'on ne peut pas se cacher derrière les procédures. Donc, quand même, il y a un problème là. Y avait-il mandat ou pas? On ne pense pas qu'il y ait eu mandat. Peut-être que le mandat a été confectionné après. Deuxième chose, on dit lorsqu'il y a résistance, on fait appel à la police. Connaissons la procédure. Je ne pense pas que la procédure a été respectée. Mais en même temps, dans le propos du ministre Mende, il affirme que des militaires ont volé $300. Ils sont allés rendre, leur colonel est arrivé pour aller rendre les $300. Est-ce que c'est des policiers qui ont mené l'opération conformément à la procédure judiciaire ou est-ce qu'on a envoyé des militaires? Parce qu'il n'y a pas de militaires qui sont allés rendre les $300. Donc ça nous paraît un peu flou. Le problème, y avait-il un véhicule de l'État détenu 100 voix par M. Makila, ça c'est un autre débat. Mais nous, nous pensons que la procédure n'a pas été respectée et que dans les contextes actuels, nous avons plutôt des interprétations politiques.
M. Mendez, vous voulez réagir?
Oui, je dois d'abord rassurer l'honorable Douaka que la procédure a été respectée et le temps nous donnera l'occasion de vérifier cela parce que j'ai eu tous les deux les documents qui attitraient ces officiers de police à se saisir des véhicules. Je confirme aussi qu'il s'agit d'agents de la police. J'ai pas parlé de militaires. Il y a des colonels de la police, il y a des généraux de la police, l'honorable Douaka le sait très bien. Et c'est donc l'autorité hiérarchique de ces agents qui a rendu les $300 et qui a procédé à l'arrestation du militaire, du policier, pardon, qui était l'objet de cette accusation. Et donc, en dehors de cette lacune qu'on a observée et qui a été sanctionnée, j'aimerais qu'on insiste sur les causes de ces crises incitants, le refus de certains responsables politiques de l'opposition de obéir aux injonctions de la justice.
C'est bien compris.
Pas le ministre Lumbi qui est allé lui-même avec son cabinet procéder à ce retrait des véhicules de l'État. Il a suivi toutes les procédures requises en pareil cas et c'est la police avec un ordre du parquet qui a procédé. Et donc si nous, hommes politiques, ne respectons plus notre propre administration judiciaire, comment pouvons-nous espérer construire un état de droit?
C'est bien compris. C'est bien compris. Monsieur François Ilika, analyste politique, assistant à l'IFASIC. Du côté de la majorité au pouvoir, on dénonce le fait que quelqu'un, donc en l'occurrence Monsieur José Makila, n'a pas respecté l'ordre qui a été donné de restituer à l'État ce qui lui revient. Et du côté de l'opposition, on dit qu'il y a la procédure qui n'a pas été respecté avant de perquisitionner les domiciles d'un élu. Votre réaction?
J'ai suivi le ministre Pierre Lumbi. Je ne sens pas dans ses propos le fait que M. Makila aurait refusé de rendre des véhicules. La preuve, c'est qu'il dit lui-même que nous avons été, nos services étaient en contact avec M. Makila. Le fait que d'abord, il y a eu une descente de personnes civiles, munis d'un mandat entre guillemets, c'est que dans l'interprétation du ministre Pierre Lumbi, il avait reçu un accord de la part de M. Makila pour que on puisse restituer les véhicules. Mais seulement il y a un problème d'information. C'est que l'équipe qui descend sur terrain rencontre des personnes autres que la personne habilitée à leur offrir ou à leur donner la possibilité de retirer les véhicules. Donc ce sont ces gens qui disent, nous ne pouvons pas, selon le témoignage de la dame, nous ne pouvons pas permettre de retirer les véhicules parce que nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes pas qualifiés pour ce fait. Donc à ce niveau-là, tout de suite, on peut se mettre d'accord qu'il n'y a pas eu refus. En tout cas, le ministre Pierre Lumbi a été clair, il n'y a pas eu refus de la part de M. Makila de remettre les véhicules. Maintenant, on est au niveau de la procédure. A-t-elle été régulière ou pas? Si la procédure a été régulière, tout de même, il faut noter qu'il y a eu mauvaise exécution ou mauvais respect, manque de respect ou déficit d'observance des consignes données par rapport à l'exécution de cette procédure. C'est à ce niveau-là qu'il faut aussi attirer l'attention. Je ne pense pas que ça soit approprié qu'on puisse se mettre à dramatiser le fait qu'il y avait l'intention de détourner. Non, dès l'instant où le ministre dit que nous avons été en contact avec l'intéressé et que l'intéressé avait marqué son accord. En tout cas, c'est ce qui transparaît dans l'interprétation.
L'intéressé n'a pas marqué son accord, monsieur Lika. Il a marqué son refus parce qu'il a parlé avec les agents qui étaient à la maison et il les a même copieusement insultés. Je lis ça dans le rapport. Il les a copieusement insultés.
Monsieur Mendez, lorsque nous parlons de l'intéressé, monsieur Mendez, lorsque nous parlons de l'intéressé, ça sous-entend monsieur José Makila ou bien
la personne qui... Oui, il les a appelés, les agents l'ont appelé à la demande des personnes qui étaient à la maison.
Oui.
Ils ont eu une conversation téléphonique avec le gouverneur Makila. Il les a copieusement insultés, je dis textuellement dans le texte. Et c'est ça qui a sur rapport de cette conversation malencontreuse, le parquet a procédé par une exécution forcée.
Merci beaucoup si c'est un élément de précision, mais tout de même, il nous amène devant un doute, monsieur le ministre, parce que nous ne comprenons pas comment un refus qui a été constaté déjà au niveau lors de l'entretien téléphonique pouvait encore amener le parquet à ne pas tout de suite requérir la force parce que je me demande comment on peut descendre sur terrain avec une équipe pour résoudre pacifiquement le problème alors que l'intéressé était déjà, avait déjà marqué son désaccord. Je crois que quand nous interprétons la procédure, en tout cas c'est ça la lecture que je me permets de faire, peut-être que je n'ai pas en toute modestie tous les éléments requis pour que je tire une conclusion beaucoup plus globale, mais j'estime que avoir la procédure, comment elle a été actionnée, s'il y a eu refus tout de suite, donc les services devraient tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour que déjà l'équipe qui doit descendre sur terrain soit accompagnée d'une force pour exécuter.
On va y revenir d'ailleurs, le Kamatila, c'est l'un des cas que dénonce l'MLC. Donc on a communiqué, l'MLC parle d'un climat de terreur qui a pour finalité d'anéantir l'opposition politique. Peut-être les termes sont forts, mais l'on sait également que les ressortissants de la province de l'Équateur se sentent visés par des actes d'intimidation, non pas parce qu'ils sont, il faut bien les préciser, ressortissants de cette province, mais tout porte à croire qu'ils seraient soupçonnés d'appartenir au MLC. Le regroupement des parlementaires de l'Équateur répète qu'il regroupe les parlementaires de l'AMP et de l'UN, a même pris position en condamnant les tracasseries et menaces dont sont victimes des ressortissants de la province de l'Équateur. On écoute l'honorable José Mbanda, président intérimaire du regroupement des députés ressortissants de l'Équateur.
D'une part, nous avons décidé de saisir notre avocat conseil pour suivre ce dossier. À sujet de l'Équateur, M. Mboyo Bongembe, qui a été abattu ici à Lemba, en présence de ses parents, et aussi d'autres menaces qui pèsent sur les ressortissants de l'Équateur. Donc nous avons dénoncé tous ces cas, mais d'autre part, en tant que député, nous avons pris la résolution de saisir la plénière pour dénoncer tous ces cas-là et éventuellement mettre placer une commission d'enquête, parce que nous sommes informés qu'il y a beaucoup de cas de détention illégale et d'arrestation arbitraire des ressortissants de l'Équateur et dont beaucoup de gens seraient arrêtés dans des amigos et même incarcérés dans les centres pénitentiaires de Kinshasa.
Monsieur le maire Mendeo Malanga, partagez-vous la crainte des parlementaires ressortissants de la province de l'Équateur?
Je crois qu'il ne faut pas exagérer. Nous sommes tous en train de déplorer les excès qu'on a pu observer ici et là. Je peux vous dire qu'il y a des procès qui sont en préparation, qui seront publics, et on se rendra compte qu'il n'y a pas que les mutins du MLC qui seront jugés. Mm-hmm. Les cas de gens qui ont fait des excès ou des débordements parce qu'ils appartenaient à la police nationale ou au FARDC sera aussi jugé. On verra des gens jugés, condamnés. Je viens de vous donner l'exemple de quelqu'un qui était chez Makila avec la police et qui est aujourd'hui en prison. Mais il ne faut pas vraiment tirer des conséquences qui peuvent être très lourdes pour l'avenir de notre pays. On a parlé des menaces contre le secrétaire général du MLC, Monsieur François Mwamba, l'honorable François Mwamba. Est-ce qu'il est d'Équateur? Je peux vous citer dans le gouvernement 5 ou 6 collègues qui sont de l'Équateur. Le numéro 2 du gouvernement est de l'Équateur. Alors, il faut arrêter de faire des extrapolations. Nous n'avons plus besoin de ces discours de la division. S'il y a des problèmes de débordement au niveau de la police, d'abus ou de cas de violation des droits de l'homme, il faut les signaler. Il faut les documenter, arrêter de diviser les Congolais. Okay. C'est ça que les Congolais ont rejeté en rejetant cette histoire de Est ou Ouest. Je crois qu'ils ont fait preuve de sagesse. Il faut que la classe politique en fasse de même. Okay. Je ne sais pas s'il est écrit dans le front des gens dans la rue, lorsqu'il rencontre des policiers qui se comportent mal. Il est écrit Équateur ou pas originaire de l'Équateur. Je ne pense pas qu'il faille vraiment donner de telles interprétations à des faits qui sont d'une banalité finalement ordinaire.
Monsieur l'honorable Thomas Louaka, la position de Monsieur Lambert Mende vous appelle?
Non. Bon, pas tout à fait, parce que, comme vous le savez, la sécurité, c'est un état d'esprit. Le MLC, dans son communiqué, n'a pas fait référence à cette... harcèlement ou tracasserie qui serait mené contre les gens de l'Équateur, mais c'est les députés, les élus de l'Équateur. Mmh. Entre autres, les élus, il y a les élus de l'AMP et les élus de l'Union pour la Nation. Toutes tendances confondues, sur quels éléments ils se sont basés pour faire cette déclaration, je pense qu'ils ont des éléments à leur disposition. Mais je pense aussi, Monsieur le ministre Lambert Mende, si nous voulons vraiment que nous vivions dans une démocratie apaisée, il faudrait qu'aussi au niveau des autorités, au niveau de la police, police, qu'on puisse envoyer des signaux positifs qui puissent démontrer que non, l'interprétation que vous pouvez avoir de ces événements est erronée. Mais cela pas dans des déclarations, dans des actes. Peut-être que si on vous donne, ces députés, je n'étais pas dans leur réunion, n'étant pas moi-même originaire de l'Équateur, s'ils vous démontrent peut-être par la liste des détenus ou des arrêtés, des gens qui ont été arrêtés, liés, les arrestations liées aux derniers événements, vous serez peut-être convaincu comme eux qu'il y a quand même une interprétation qui pourrait se faire. Je pense que sur cette question-là, les gouvernements et les autorités devraient quand même être très très attentifs pour éviter, là je suis tout à fait d'accord avec le ministre, pour éviter qu'il y ait des interprétations qui peuvent amener, qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur la stabilité du pays.
Monsieur François, il y a certaines sources commentant la situation de l'heure, parlent des dérives inquiétantes pour la jeune démocratie congolaise. Votre avis?
Écoutez, il faut dire qu'il y a, à mon sens, trois attitudes qu'il faut adopter lorsqu'on est en face des questions touchant à la sécurité ou à l'insécurité. C'est qu'il faut éviter une dramatisation excessive, mais il faut aussi éviter une banalisation de la question. Il faut chercher à avoir les faits, à pouvoir les analyser froidement en dehors de toute interférence politique ou de tout sentiment politique possible. C'est ce que j'ai pu comprendre dans la conclusion de l'argumentation du ministre. Il est important que nous sommes une jeune démocratie, mais il est aussi vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui font l'objet de menaces et de l'insécurité. Il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les nier non plus. Et à ce niveau, il faut craindre qu'au niveau du pouvoir, qu'on puisse faire une mauvaise lecture de la situation post-Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire en termes de démilitarisation ou en termes de démobilisation de sa garde. On a comme l'impression que les policiers, comme certains militaires qui ont été peut-être dans l'opération ou qui ont pris part de près ou de loin dans le processus de militarisation récente, qu'il y a peut-être un sentiment de gloire militaire qui pousse à l'excès dans certains dans les comportements. Parce qu'on ne peut pas comprendre, et peut-être que, si vous le permettez, je ne pense pas que ce soit le moment de le faire, mais il faut reconnaître que moi-même, j'ai pu passer à certaines émissions ici, mais il y a deux de dernières émissions qui ont poussé certaines personnes à m'appeler au téléphone pour me faire des menaces. Donc ça veut dire que quelque part, on ne peut pas dire que c'est tout un système qui est organisé, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris que les choses ont changé et qu'il faut en même temps changer les structures mentales, éviter de comprendre, de croire que la démocratie est un régime de personnalisation des rapports. La démocratie est le seul régime qui nous produit des institutions impersonnelles. Nous n'avons pas, on ne s'attache pas à une personne, je ne m'attache pas à M. Mende parce que je considère qu'il est comme tel, mais je m'attache à lui parce que je considère que les idées qu'il sécrète, ce sont des idées qui peuvent avancer, faire avancer la société. C'est à ce titre-là. Donc, ce sont des rapports impersonnels, encore que dans cette impersonnalité, on se retrouve davantage dans un système où l'arsenal juridique nous protège nous tous. Donc, je note que concrètement, il y a des pratiques de menaces qui pourraient, c'est vrai, conduire à une certaine dérive. Je n'ai pas la prétention d'être absolu, mais il est important que ceux qui sont au pouvoir, que les institutions prennent en charge de telles préoccupations pour que des signaux forts, comme l'honorable Wak a dit, soient lancés et que la population soit dans une atmosphère de paix et de confiance. C'est à ce prix que nous pouvons construire.
Monsieur le maire, on vient déjà vous donner la parole tout de suite là. Je sais que vous voulez réagir. Il y a un petit témoignage, bon, sans le vouloir, peut-être qu'on a dans ce studio avec les appels un peu anonymes à l'endroit de notre invité François Elika, mais on va en parler. Les rapports quelque peu conflictuels que l'on observe entre le pouvoir et l'opposition engendrent déjà des conséquences au sein de la population, du moins à Kinshasa, des cas d'insécurité qui se traduisent par des actes d'extorsion et autres tracasseries de tout genre sont observés dans certains coins de la capitale juste après les événements du 22 et 23 mars dernier. Dernier fait en date, c'est cette attaque dont ont été victimes les habitants du quartier Mwaka dans la commune de Kinshasa dans la nuit des samedis samedi à dimanche. Bilan, un mort, un blessé léger, plus de $700 américains de biens emportés. D'après les témoignages des membres des familles de la victime, les présumés auteurs de ces actes seraient trois éléments de la garde républicaine. La personne décédée, âgée d'une quarantaine d'années, a reçu une balle dans le ventre devant son épouse après avoir été dépouillée de tout ce qu'il possédait. Ce dernier a trouvé la mort hier dimanche à l'hôpital général de Mamaïmo, ou à l'hôpital général. Les récits de faits avec un membre de sa famille.
On dit Cambodéda et que la victime a abîmé pour moi.
Ce qui s'est passé, c'est que la victime était sortie, il est allé chercher son épouse à Bandal. À son retour, comme il a l'habitude de parquer sa voiture juste à côté, voulant parquer, les militaires de GGSD l'ont arrêté. Ils étaient à trois. L'un d'eux était au couloir en présence des témoins. Et lui qui était dans ce couloir observait les mouvements des gens. Les deux autres les ont sommés de descendre. Ils ont demandé tous les biens qu'ils possédaient. Le couple n'a pas résisté, il a tout donné. Au même moment, ils ont chargé, surpris, la victime commençait à les supplier. Il a même parlé en swahili pour leur dire qu'il était un de leurs frères. Après, quand les militaires ont vu des policiers, ils ont commencé à tirer et les policiers également ont ouvert le feu. C'est en ce moment-là qu'il a été atteint d'une balle. Son corps est actuellement à ma Maïmon, il est décédé hier dimanche à 23h. Eux sont des gardes républicaines. Qu'est-ce qu'ils font à la cité extorquer et tuer les gens?
Voilà, Radio Kapi a également formé son micro et a recueilli quelques témoignages au sein de la population chinoise. Écoutez.
Masodo balata noir wana na rouge. Jésus peso a présidence ana. Batinde libiso wa don bazo boto la biso ba mongo wa boto la biso ba pareil. Ba kondi ba tel la bato bango batinde libiso so ba don elo mo ba sala ezati ba wando fié pa na biso na ba civile.
Non non, les militaires ne causent pas de problème. La preuve, quand il y a eu les émeutes du 22-23 mars, la preuve, on était dans la sécurité. Ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a la sécurité.
Précisément, par rapport à l'Angaï, normalement, la circuit aura la Zali, la Matongue, sécurité d'un côté, la Soda, sécurité pour la maison à l'Angomène. On a des cas de bandi, au babot de la rabatte, au babiloko, à chanet, on a vraiment tout quoi, et ça pour continuer. Il
y a des coûts informatiques, avec tout en main. Après, un deuxième moment, bien armé, à GSP, tout le monde a la pièce en main, et présenté, elles sont pour carte d'étudiants, au babot et à elles sont carte d'électeurs, bah, si en haut, bah, bio, au vendiac. Maintenant, vendiac, au carte, on a juste aussi, là, on a un zoom. Aussi, tout le monde est au vendiac. On a juste, au temps, à vendre l'hôpital, la vente nationale, au bout de la sec, on a un zéro.
Voilà, avant de donner la parole au commandant de la garde républicaine qu'on a eu au téléphone ce soir, j'aimerais d'abord dire concernant ces réactions qui, comme on a pu les suivre, il y a d'une partie la population, ou bien les gens interrogés qui dénoncent les actes d'intimidation, l'extorsion dont ils ont été victimes de la part des militaires, et d'autres qui estiment que non, la sécurité est là et il n'y a pas quelque chose à dénoncer. Le commandant de la garde républicaine déclare ne pas être informé de la situation. En tout cas, il affirme qu'aucun élément de la garde républicaine n'a reçu l'ordre de tracasser ou de semer l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Toujours selon lui, tous les éléments de la garde républicaine sont cantonnés dans leurs postes respectifs. Le général Banse.
Oui, mon général, c'est en rapport avec la sécurité dont parlent certaines personnes du MLC. Il paraîtrait que le siège du MLC serait occupé par la garde républicaine. Comment expliquez-vous cela?
Quel siège du MLC? Moi, je ne connais pas le siège du MLC, puisque moi, je ne suis pas politicien. Je ne connais pas de siège du MLC qui soit occupé par la garde républicaine. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Hein. Je n'ai pas, à un seul instant, appris que des éléments de la gardes sont allés assiéger ou attaquer ou tuer quelqu'un hein, par les temps qui courent. Il y a trop de bobards, trop de racontards. Surtout que des gens qui promettaient de découper la tête aux autres, comme ils n'ont pas pu réussir à le faire, là ils croient qu'on va faire la chasse à l'homme, il y aura des règlements de comptes. Non, 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 non. Il n'en est pas question, la population est tout à fait calme. Et aucun élément de la garde républicaine n'a reçu l'autorisation ou il n'a été instruit à commettre de tels actes. Hein. Par contre, tous sont tenus sous discipline, ils ne sortent pas et ils ne dérangent pas la population.
Voilà, monsieur Lambert Mende, au Malanda, j'avais promis de vous donner la parole. Alors, avant de vous la donner, j'aimerais préciser qu'on ne jette pas l'anathème sur tous les éléments de la garde républicaine. Peut-être y a-t-il des éléments de la garde républicaine qui ne respectent pas l'ordre, Peut-être aussi y aurait-il des gens qui seraient habillés en tenue de garde républicaine. En tout cas, je ne sais pas, mais vous venez de suivre tous ces faits. Quelle est votre réaction?
Permettez-moi d'abord de protester de manière la plus véhémente contre les menaces qui ont été proférées à l'endroit de M. Lita. Oui. Moi, vraiment, dans ce genre de pratique, nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter que pour des opinions aussi intelligentes émises par M. Lita, dont nous avons l'habitude de suivre les questions à la radio, que des personnes se permettent de proférer des menaces. Il a toute ma solidarité. Je dois simplement dire que une partie donc soit des gens responsables au niveau de notre famille politique qui puissent se de tels comportements, ça peut être des extrémistes, hein, vous savez, il y en a partout, on ne peut pas nous le dire. En ce qui concerne ce qui a été rapporté au sujet de cette mort d'une dans la commune de Kinshasa, ben, je m'attendais à écouter le récit d'un conflit entre partisans politiques, mais nous avons du droit en fait un récit sur le banditisme ordinaire. Rien ne nous prouve que ce soit des éléments de la garde républicaine, c'est comme ça qu'on les appelle, par le simple fait qu'ils portaient des tenues noires et des bérets rouges. Nous avons vu dans certaines garnisons ici secrètes des tenues de la garde républicaine, des tenues de la police, de sorte qu'il devient difficile dans cette ville, tant que l'armée et la police, c'est-à-dire au niveau de leur technostructure de commandement, n'ont pas encore rétabli leur autorité de manière décisive, et c'est ce que le président a essayé de faire le 22 et le 23, il est difficile de savoir que tel qui porte l'uniforme appartient effectivement à telle unité. On a vu des unités d'uniforme dans les endroits qui ont été débusqués par la police dernièrement, et donc c'est assez imprudent de pouvoir attribuer encore, comme la garde républicaine, le fait que peut-être des petits bandits qui ont endossé leur uniforme reçu d'on ne sait où, parce qu'on voit que tout le monde se bat des uniformes dans des maisons, ont commis. Donc nous ne pouvons que déplorer cela, inviter à une répression très prompte, très rapide, de tels faits par les autorités judiciaires civiles, mais également les autorités judiciaires militaires qui ont compétence dès lors que des armes de guerre, des uniformes sont utilisés. C'est un leitmotiv pour nous. Nous devons absolument faire la distinction entre le banditisme ordinaire tel qu'il existe et qui est commis par des gens qui utilisent des armes et parfois des uniformes, et la répression politique.
Si on vous comprend bien, il existerait des gens qui ont utilisé la tenue de la garde républicaine et qui sont en train de semer l'insécurité par-ci par-là à travers la garde.
Je vous dis, par exemple, excusez-moi d'insister là-dessus, oui, que les deux policiers, soi-disant policiers, qui ont été trouvés à la résidence du gouverneur Makila, n'avaient de policiers que de nom et l'uniforme. Pas vérifié à le pays où il devait appartenir, il ne figure pas sur le liste de la police. Donc vous voyez, des choses comme ça, ça existe, il y a des gens qui portent l'uniforme de la police, qui portent l'uniforme de l'armée, mais qui ne sont ni policiers ni militaires.
Réaction de l'honorable Thomas Louata.
Ah oui, j'ai suivi les cas d'insécurité, mais il faut dire que les actes d'arrestation arbitraire, les intimidations contre les cadres et militants du MLC, ce sont des cas avérés. Nous avons établi toute une liste que nous allons transmettre aux personnes intéressées. Mais ce qui m'a aussi plu dans l'intervention du ministre Mende, c'est lorsqu'il parle des extrémistes de leur camp. Je pense qu'il y a des gens aussi dans l'AMP qui n'ont pas encore compris ce qu'est la démocratie. Pour eux, la démocratie, ça s'arrête le jour des élections.
Dans les deux camps peut-être aussi.
Oui, dans les deux camps, mais aujourd'hui, ceux qui ont les pouvoirs de nuisance, la capacité de nuisance, ce sont les gens de l'AMP, puisqu'ils contrôlent l'appareil de l'État. Je viens de suivre... les commandants de la GSSP et de la garde républicaine qui dit que ces éléments ne sont pas à la permanence du NSC, ils ne connaissent pas la permanence du NSC, mais je demande à tout petit noir qui connaissent l'avenue du port à côté du rond-point Forescom, 6 avenue du port, dépasser demain matin, ils vont trouver les éléments de la garde républicaine entrer au siège du NSC. Moi, je ne peux pas accéder à mes propres bureaux.
Peut-être que ce ne sont pas les éléments de la garde républicaine en train de parler.
Ça devient très très grave. S'il y a des éléments, 10 personnes, 5 ou 10 personnes peuvent occuper le siège d'un parti politique, alors que ces éléments ne sont pas contrôlés par le gouvernement, ça devient très très grave. Là, on devrait commencer à s'inquiéter. Y a-t-il un gouvernement dans ce pays?
Monsieur François Elika.
Bon, il faut dire que par rapport aux événements tels que ça s'est passé dans la commune de Kinshasa, c'est vrai qu'il est difficile qu'on puisse identifier tel ou tel autre fait partie de quel, est-il réellement militaire ou il ne l'est pas, parce que il faut savoir que nous venons très loin aussi comme pays, hein. Je veux dire concrètement que il y a eu des gens dans ces pays qui ont pris goût à utiliser les armes avec les FAP déjà à l'époque. Il y a des gens, nous sommes dans un contexte de précarité sociale, lorsque pour des raisons de survie, on est en face des éléments armés et qu'on les présente capturés par la police. Bon, on est toujours curieux de constater que la plupart des gens qui détiennent des armes ne sont pas nécessairement des militaires. Donc il faut tout de suite se mettre d'accord que de telles pratiques sont courantes dans une société comme la nôtre, autant que dans d'autres sociétés en Afrique du Sud et partout ailleurs. Mais par rapport à la déclaration du général, bon, j'ai senti qu'il ne veut pas tout de suite faire une déclaration qui pourrait prêter à une interprétation politique, même s'il faut relever le fait que, tout en affirmant qu'il ne connaît pas le siège du MLC, mais au moins, il dit, ceux qui voulaient couper les mains, ça signifie qu'au moins, il suivait les événements, et à ce titre, il doit être au courant que le siège est bel et bien occupé. À ce niveau-là, c'est un problème de responsabilité, peut-être que ce n'est pas à son niveau, mais c'est un problème qui doit être politiquement réglé pour permettre à une structure politique légale de fonctionner normalement.
Ok. Que faire pour instaurer un climat de confiance entre la majorité au pouvoir et l'opposition? C'est la deuxième partie de cette émission. Honorable Thomas Luaka, Los Angeles, il s'est passe tout ce que vous venez d'énumérer dans votre communiqué, les actes qui, selon vous, tendent à anéantir l'opposition politique et par voie des conséquences, la démocratie naissante en RDC. Les rapports ne sont donc pas confiants entre la majorité au pouvoir et l'opposition. De votre côté, que faut-il faire pour que cette confiance s'instaure désormais entre vous et le pouvoir?
Merci beaucoup. Je pense que la confiance peut être restaurée entre les deux familles politiques assez rapidement si aujourd'hui les tenants du pouvoir arrivent à établir clairement devant l'opposition et l'opinion publique que ce sont des républicains, que ce sont des démocrates, que les droits fondamentaux de l'opposition garantis dans la Constitution, liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté d'association, ces droits-là seront respectés. Donc, il faudrait que les gouvernements, ceux qui sont au pouvoir, puissent nous rassurer qu'eux aussi, de leur côté, ils sont des républicains. Le chef de l'État, c'est un républicain, les membres du gouvernement sont des républicains tous, et autre chose, que les institutions chargées de la sécurité sont des institutions républicaines. Par exemple, que les FARDC sont une armée républicaine, c'est-à-dire l'armée chargée de sécuriser, que ce soit les membres de la majorité et de l'opposition. Que les FARDC ne seront pas utilisés au bénéfice des intérêts politiques d'une famille politique aujourd'hui détenteur du pouvoir. Que la police nationale ne sera pas utilisée au bénéfice d'une famille politique. Ça, c'est des gestes, des actes que nous attendons. Aujourd'hui, nous avons des doutes sur les caractères démocrates et républicains ou la volonté des tenants du pouvoir à jouer loyalement le jeu démocratique.
Jusque-là, honorable Thomas Luaka, vous demandez vous énumérez, vous faites ce que l'autre camp doit faire, mais de votre côté.
De notre côté,
il y a aussi un effort à faire.
Non, mais nous le faisons toujours. Nous avons, dans les communiqués, nous l'avons dit, nous nous engageons à faire de l'opposition, une opposition forte et républicaine. Nous l'avons toujours dit, c'est-à-dire que nous allons respecter et les institutions et les lois de la République. C'est ça notre engagement. Nous allons faire l'opposition constructive, l'opposition républicaine, c'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas prendre des méthodes, par exemple, la résistance armée. Non, ça, ce n'est pas dans notre projet de société, une opposition pacifique en respectant l'ordre et les institutions de la République. Mais il faudrait que, de notre côté, nos partenaires politiques nous rassurent qu'ils sont dans le même état d'esprit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Monsieur Mende, que faut-il faire pour que la confiance règne entre vous et l'opposition?
Tout d'abord, je suis heureux d'entendre l'honorable Louaka prendre cette cause pour un type d'opposition républicaine et pacifique. Je note que c'est une évolution par rapport à la position défendue par le président du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba, lors de sa dernière interview qui a précédé les actions du 22 et du 23 du mois dernier. Et donc, nous constatons que si l'opposition respecte les dispositions telles que l'honorable Louaka vient de les dire, mais ne peuvent se passer de manière harmonieuse, parce que en ce qui concerne l'AMP et ses alliés, nous avons pris cette cause pour une gestion démocratique du pays, et nous l'avons démontré jusqu'aujourd'hui, parce que le fait même que l'honorable Louaka soit en train de parler librement, qu'au Parlement, tous les députés qui l'accompagnent au niveau du groupe parlementaire, dont il est un des principaux animateurs, s'expriment librement, dirigent des commissions parlementaires, dirigent des grandes commissions parlementaires, des commissions permanentes, est une indication du fait que nous sommes, nous, dans la concrétisation de cette reconnaissance des droits de l'opposition. Et nous allons même aller plus loin. Nous allons accélérer l'examen du projet de loi qui a été introduit par un des membres les plus éminents du groupe parlementaire de l'opposition pour que, de manière tout à fait légale, l'opposition puisse s'exprimer. Mais je pense qu'il faut que l'opposition fasse ce qu'elle dit. Elle ne peut pas dire une chose et en faire une autre. Lorsqu'on nous dit opposition pacifique, ce n'est pas ce que nous avons vu le 22 et le 23. Lorsqu'on dit opposition pacifique et qu'en même temps on dit non, je ne peux pas désarmer, je ne peux pas faire entrer mes gardes dans le tronc commun de l'armée, mais tout cela n'est pas pacifique. Donc on a l'impression qu'il y a un double langage, qu'il y a une sorte de dichotomie entre le président de cette famille politique de l'opposition et ses membres. Et donc j'espère que tôt ou tard, le président Bemba viendra à point. Les positions pacifistes, les positions réellement républicaines.
Merci, M. Mende.
Siège au Parlement aujourd'hui.
Ok, c'est bien compris. Parole aux auditeurs, nous accueillons Pamela Amunazo. Bonsoir, Pamela.
Bonsoir, Philippe.
Combien de réactions avez-vous déjà enregistrées depuis le début de l'émission jusqu'à ce niveau? Vous avez une idée?
Nous avons beaucoup de réactions, plus de 800 SMS de auditeurs.
Oui, quelques-unes.
Les gens ne pourront pas les lire.
Malheureusement.
Quelques-unes. Minos Amundala de Kinshasa pose la question suivante. Qu'est-ce qui prouve que l'opposition est anéantie par le gouvernement? Et puis il y a Mapendi Akananga dans la province du Kessé occidental qui veut savoir comment on peut parler de la démocratie en RDC alors que le gouvernement cherche à anéantir et à persécuter l'opposition. L'honorable Liélé dans la province de l'Équateur demande pourquoi tous les ressortissants de l'Équateur sont pourchassés à Kinshasa. Oscar Kankou à Mwanda dans la province du Bas-Congo propose à l'opposition et ses alliés de cesser de provoquer le gouvernement, d'éviter de les pousser au non-respect de la loi. Et puis nous avons par internet M. Gabriel Kumbajira qui pose cette question. C'est une question posée effectivement à l'opposition. Pourquoi vous accusez l'AMP et ses militaires d'être des pillards et vous oubliez tous les morts causés par vos milices? Qu'est-ce qui est plus important entre la perte en vie humaine et les biens pillés? Prince Batembe à Kisangani, dans la province orientale, dit ceci, l'opposition congolaise doit être responsable et doit se conformer à la loi. Elle doit éviter le mensonge de nature à diaboliser le pouvoir et doit poser le problème tel qu'il le faut. Et enfin, David Bwanga Manono, dans la province du Katanga, pose cette question, est-ce que la tracasserie en RDC ne touche que de l'MFC ou est-ce que c'est une façon d'envoyer le développement attendu par les Congolais? Voilà.
Merci beaucoup, Pamela Amunazo. J'aurais vraiment voulu que l'honorable Thomas Louaka puisse réagir et M. la mère Mende, mais bon, il nous reste juste une minute et quelques secondes. Il y a M. François Elika qui n'a pas répondu, n'a pas encore répondu à la question de savoir qu'il faut-il faire par les deux camps pour que la confiance soit restaurée. Mais avant de lui donner la parole, je m'en vais rectifier un peu les tirs avec quelque chose qui est dit dans les réactions. Dans la province de l'Équateur demande pour l'honorable Liélé dans la province de l'Équateur demande pourquoi tous les ressortissants de l'Équateur sont pourchassés à Kinshasa. Je crois que nous venons de suivre ce qui a été dit et par M. Mende, par l'honorable Louaka, par M. François Elika, et nous qui sommes à Kinshasa, je crois que ce n'est pas le cas. C'est pas
non, c'est pas le cas, et puis il faut éviter une, c'est comme nous l'avons dit, une forte dramatisation.
Voilà.
La politique ne peut pas être une politique identitaire. Il ne s'agit pas ici, on n'est pas en face d'un groupe ethnique en opposition avec un autre. Nous sommes en face des hommes politiques qui ne s'entendent pas du fait de contradictions des opinions politiques. C'est ça le jeu politique. Je crois qu'il y a au niveau de l'opposition comme au niveau du pouvoir un travail à faire en ce qui concerne le système de communication. Nous sommes à un niveau tellement crucial de la construction de notre démocratie qu'il faut éviter que de part et d'autre on laisse les extrémistes s'exprimer. Les hommes les plus rationnels, aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition, doivent s'exprimer pour donner des signaux forts de confiance, de recrédibilisation de leur structure, de sorte qu'une dynamique beaucoup plus forte émerge et que ça soit une dynamique par rapport à l'idéal même de la démocratie.
Merci beaucoup, M. François Elika. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à nos invités, Lambert Mende Omalanga, ministre des Hydrocarbures et porte-parole adjoint de l'Alliance pour la majorité présidentielle au pouvoir, AMP. Il était au micro. M. Thomas Louaka Losenjola, honorable, secrétaire exécutif du MLC, député de l'Union pour la Nation. Et enfin, M. François Elika, analyste politique et assistant à l'IFASIC. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain.